Comment ces Sinciertos, un autre Orlando, référence dénichée sur le tard au roman de Virginia Woolf, déjoue les genres. Pour ce spectacle, Nino Lainé et François Chéniaud signent une collaboration haute en couleurs, mettant en scène trois personnages mythiques du folklore ibérique. D'abord la Donchella Guerrera, une sorte de Mulan espagnole qui précède un San Miguel androgyne, et enfin la Tarara, une gitane andalouse aux genres incertains.
La première figure qui apparaît, la Doncella Guerrera, c'est donc une jeune fille partie à la guerre sous les traits d'un homme. C'est vraiment un motif très populaire qui existe dans beaucoup de cultures. En Espagne, on l'a retrouvée dans ses romances, mais elle existe à peu près sur tous les continents. Et ce qui nous a un peu interpellé, c'est que dans certaines versions de ce romance, on avait une fin beaucoup plus obstinée, déterminée, où plutôt que de dévoiler son identité, elle préfère se laisser emporter par les eaux. Et il y a quelque chose comme ça d'obstiner, de choisir la mort et de mourir en homme, plutôt que d'accepter cette fin pseudo-heureuse qui est proposée dans d'autres versions où elle se marie avec le fils du roi. La seconde, Sainte Miguel, c'est vraiment une figure très ambiguë, à la fois dans l'aspect pictural, toutes les représentations, que ce soit les sculptures qui apparaissent dans les processions dans le sud de l'Espagne, les peintures qu'il représente. C'est toujours un personnage qui apparaît de manière très androgyne et qui, dans les poèmes de García Lorca, c'est vrai qu'il a mis en lumière, il a mis des mots sur cette ambiguïté-là et il a même chargé d'érotisme. Et la Tarara, donc c'est un personnage très populaire en Andalousie essentiellement, mais qu'on retrouve aussi un petit peu dans toutes les géographies espagnoles, qui aujourd'hui est encore très présente dans la culture flamenca et qui a jamais cessé de se réinventer. On la trouve parfois très mystique, très religieuse, d'autres fois très séductrice, très sexuelle et provocante. Et c'est vrai qu'à partir des années 1920, il y a eu des versions de chansons paillardes qui proposaient une autre lecture de ce personnage et qui sous-entendaient qu'elle serait peut-être un personnage intersexe. Et c'est un trait de caractère qu'on a aussi retrouvé dans les cabarets de la Movida et les shows de travestis.
Chant, danse de flamenco et de ballet, mais aussi musique aux multiples influences, se répondent dans cette pièce résolument pluridisciplinaire.
Ça, je pense que c'est vraiment lié à notre rencontre. François vient du langage chorégraphique, moi je suis très proche du langage musical et c'est vraiment l'union de ces deux arts. Et ce qui a été vraiment au cœur de nos échanges dès le départ, c'est qu'on rêvait d'une forme dans laquelle les deux arts cohabitaient sans jamais que l'un prenne le dessus sur l'autre. Du coup, c'est pas un spectacle chorégraphique accompagné par de la musique en live et c'est pas non plus un concert qui serait aussi dansé, mais c'est vraiment le point de rencontre, d'intersection, et il y a tout le temps une bascule de l'un à l'autre et on est face à cinq solistes, chacun avec leur langage, mais les quatre musiciens sont tout autant protagonistes de la trame narrative que François qui va incarner ces figures corporellement aussi. En fait, le casting musical, c'est vrai qu'on a une chance inouïe de travailler avec ces musiciens. C'est des gens qui ont une carrière soliste et qui sont vraiment dans des langages très très précis. Alors, on a deux instruments qui viennent vraiment de l'époque baroque. C'est le théorbe et la guitare baroque pour les cordes pincées et les deux viols de gambe, dessus de viol et basse de viol. C'est vraiment des instruments typique du 17e, qu'on a un peu décalé par rapport aux arrangements, par rapport au répertoire qui est abordé, puisque c'est des répertoires qui normalement ne sont pas joués avec ces instruments-là. Et de l'autre côté, on a des instruments qui viennent plutôt des musiques traditionnelles, avec des percussions historiques ou encore contemporaines, et le bandoneon, qui est un instrument qui aujourd'hui est plutôt associé et identifié pour son histoire avec le tango et la culture argentine, et qui a un rapport très important aussi avec la musique liturgique et qui pourrait presque faire office d'orgue. Il a ce double clavier, ce soufflet qui semble s'animer.
Romances Sinciertos, un autre Orlando, est ainsi une performance métissée, où se mêle culture flamenca, séfarade, baroque, menée par un méticuleux travail de recherche sur les costumes, la musique ou la littérature, témoignage de la richesse de ces cultures ibériques.
Pour nous, c'était important de nous ancrer dans une histoire collective qui est à la croisée des traditions orales et des documents, des archives vraiment écrites et formalisées dans une certaine un certain langage qui est souvent plus proche d'une forme érudite ou en tout cas qui a été développé sur des plateaux officiels un peu. Et c'est un peu cet entre-deux, cette oscillation, comment des motifs sur des figures comme ça incertaines ont circulé et ont emprunté un petit peu ces différents chemins. Donc c'est vrai que la partie recherche, elle était très importante. Ça a été des longs mois de voyages à travers l'Espagne. Sur certains voyages, François me rejoignait. Et puis, il y a aussi cette approche de langage qui n'était pas forcément familier pour François. On a dialogué avec des gens qui viennent des arts du flamenco, de la rota, certains chants régionaux. Et c'est vrai que tout ça a nourri ces figures sans jamais qu'on cherche à incarner une scène de pur flamenco ou de pur chant traditionnel, mais plutôt être dans une oscillation et ne pas chercher non plus à camoufler le fait que François est pas espagnol, mais plutôt se glisse aussi dans tout ce que son corps a déjà engrangé comme savoir, comme culture. Et donc on est vraiment dans cet entre-deux, quoi, très métissé.
Que la toute première résidence qu'on a fait avec Nino, c'est exagéré, mais on a presque passé la moitié du temps à construire les costumes et à faire des essayages. Donc c'est vrai que Nino venant plus de l'univers visuel, et puis moi, ma pratique de la danse, elle a toujours laissé une grande place au costume, en ce que j'ai l'impression que ça amène, ça détermine une danse possible. Et puis par ailleurs, pour ce spectacle, c'est vrai, comme il s'agit de figures très, très distinctes, chaque figure, elle fait aussi écho à des savoir-faire locaux, à des écritures du costume, du chapeau, de l'ornementation, de la broderie, de la jupe.
François Chéniaud, sur Échasse, point tout à long virgule, semble traversé par ces trois personnages indécis. Des références hybrides, sorties certes du passé, mais qui, incarnées par François Chéniaud, restent ancrées dans un temps présent.
Oui, voilà, c'est qu'en fait, c'est des partitions très, très corsetées sur chaque acte. L'agenda pour les musiciens, pour moi, des choses à faire est extrêmement riche, extrêmement déterminé, grâce à toutes les recherches qu'il y a eu, grâce au dialogue entre nous tous, grâce aux différents feuilletés de langage. Il y a déjà ce paramètre-là qui fait qu'il ne s'agit pas juste d'espérer chercher tel personnage, mais en fait, on s'est donné une règle du jeu très très déterminante, très précise. Une chose assez intéressante dans ce spectacle aussi, c'est que c'est des références dont certaines ont vraiment plusieurs siècles. Donc il y a un rapport comme ça à l'histoire, à la réminiscence. Et en même temps, comme tout est joué en live, que vraiment il y a quelque chose, même si on est légèrement amplifié, il y a une sensation d'extrême acoustique, et puis aussi dans le type de danse, de grand danger en temps réel. J'ai l'impression que cette articulation entre des références, des réminiscences très anciennes et très détaillées, et en même temps un enjeu de temps réel, de performing art, vraiment de performance, permet aussi d'accéder justement à la possibilité de se laisser visiter par ces figures d'une manière qui nous touche et qui nous traverse très intensément, et qui n'est pas juste dans l'exhumation muséale d'une figure poussiéreuse.